Oh, your Monty's daughter. I'm his godson.
You're his godson?
Yeah.
Nice to meet you. I'm Maya.
Gabriel.
You're French, right?
Yeah.
I know two words in French. Dégueulasse and oh la la.
It's a good start.
Ah! Ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
À 17 ans, elle découvre que le cinéma est la seule manière d'être heureuse. Et elle devient réalisatrice à 25. Cette naissance a déjà été célébrée, mais son talent se confirme avec le temps et avec ce nouveau film. Mia Hansen-Love, sur notre affiche ce matin, à côté de celui qui aurait eu 100 ans cette année, Ingmar Bergman. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous.
Un destin sur pellicule avait titré Le Monde, oui. Depuis Tout est pardonné, son premier film en 2007, jusqu'à celui-ci Maya, 6 films déjà. Un parcours fluide, subtil, libre, peuplé de personnages souvent confrontés à une épreuve, mais sans jamais en appuyer la dramaturgie. Bonjour Mia Hansen-Love.
Bonjour.
On a souvent évoqué vos films ici, vous voici enfin avec nous, à l'occasion de Maya, l'histoire d'un reporter de guerre, ex-otage, qui décide de partir à Goa en Inde où il rencontre la jeune Maya. Le film sort mercredi prochain. Mia Hansen-Love, je disais 6 films, mais en fait vous avez presque déjà tourné le 7e sur l'île de Faro en Suède, l'île sur laquelle a vécu Ingmar Bergman, dont on célèbre cette année le centenaire. Bonjour Frédéric Strauss.
Bonjour.
Critique à Télérama et auteur de ce précieux livret qui accompagne le coffret Bergman, composé de 8 films très importants qui couvrent toute la carrière du maître suédois. Coffret édité chez Studio Canal. Enfin, les sorties dominées par une palme d'or, une affaire de famille du japonais Koreeda.
Cet avion tellement attendu vient d'atterrir sur le tarmac militaire de Kanoubet.
Après un bref passage pour la Chine.
Nous sommes heureux de vous retrouver sains et saufs.
Merci.
Comment vous sentez-vous?
Bien mieux.
Bienvenue.
Merci, merci.
Vous avez bien voyagé, ça va?
Quel soulagement, vraiment.
Maya, votre film Mia Hansen-Love aurait pu démarrer comme ça, mais non. Toute la subtilité de votre cinéma est dans cette scène d'ouverture, dans le silence d'une salle de bain, d'une chambre d'hôtel. Un homme rase sa barbe et retrouve peu à peu son visage, se dirige ensuite vers le lit sur lequel sont posés des vêtements neufs. On découvrira un peu plus tard seulement qu'il est reporter de guerre et vient d'être libéré après une captivité. Et en fait, c'est ça que le cinéma doit montrer. Pas les scènes que l'on a vues 1000 fois à la télé, l'arrivée en avion, mais ces retrouvailles entre lui et lui.
Oui, je crois que j'ai toujours été davantage intéressée ou attirée par le hors-champ ou par le second plan que par ce qui est plus évident. Et si jamais j'ai pu être inspirée par des images de libération d'otages, et bien sûr ça a été sûrement le cas en partie pour ce film, je crois que ce qui a attiré mon attention et ce qui a peut-être été à l'origine de ce personnage, ce sont plus les otages qui restaient au second plan, qui parlaient moins, qui étaient plus réservés. Et il y a eu chez moi un élan vers eux ou le désir de comprendre ce qu'il y avait dans ce silence, enfin d'aller au-delà de ces images. Donc c'est un point de départ.
Ouais, puis une scène comme ça, c'est une scène que vous avez imaginée mais qu'on n'a jamais vue. Et on voudrait savoir, on voudrait être dans l'intimité de ces hommes, effectivement, qui sortent de ces mois ou ces semaines ou ces jours d'emprisonnement. Mais vous êtes loin de ce monde des reporters de guerre. Et vous avez voulu le comprendre?
J'en suis loin, absolument. C'est la première fois d'ailleurs que je représente un personnage qui est aussi éloigné de moi. Jusqu'ici, j'ai fait des films avec des protagonistes avec lesquels je pouvais avoir des liens plus directs, qui pouvaient être inspirés par des gens que j'avais croisés, des gens proches.
Et à là, un c'est moment exotique,
donné,
là.
C'est, oui, ça l'est, alors, exotique, c'est pas le mot que j'emploierais, mais en tout cas, moins proche. Et j'ai saisi ça comme une chance, en fait. Ce sujet-là s'est imposé à moi, encore une fois, ce n'est qu'un point de départ. Je vais vers l'inconnu après. Et je crois que le personnage se rapproche de moi au fur et à mesure que le film avance, ou je me rapproche de lui aussi. Mais voilà, je suis partie de là.
Mais en même temps, ce sont des fantômes, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils reviennent un peu d'entre les morts. Et ils ont des regards de fantômes. Et pour une cinéaste, les fantômes, on sait bien que c'est formidable à filmer.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que le parcours du film, c'est celui de ce jeune homme qui va retrouver son corps, qui va retrouver son visage. Et en effet, cette première scène était pour moi tout à fait essentielle. C'est aussi la scène qui m'a permis de définir la distance qui serait la bonne, à mon sens, pour filmer ce personnage. C'est-à-dire ni trop près, ni trop loin. Et quand il prend sa douche, c'est le premier geste qu'il fait une fois qu'il est de nouveau libre. Et c'était important pour moi de ne pas être dans la salle de bain avec lui, mais de l'attendre patiemment dans la chambre, d'attendre qu'il ait fini de se laver et qu'il se retrouve, de l'attendre quand il sort pour pouvoir à ce moment-là l'accompagner, mais pas avant.
Il y a une part aussi héroïque et très romanesque dans ce métier de reporter de guerre.
Oui, il y a une part de romanesque, bien sûr, mais je crois que le romanesque m'a toujours attirée. Même quand je fais mon deuxième film, Le père de mes enfants, qui à la fois peut sembler très proche de moi et très, comment dire, banal, dans le sens où je représente un producteur en étant cinéaste. En même temps, ce qui m'attire dans ce métier-là, à ce moment-là, c'est ce qui me paraît romanesque. Et le romanesque, oui, m'a toujours attirée. Et si le cinéma me plaît tant, c'est aussi parce qu'il me permet une forme d'intensité qui a à voir avec le romanesque.
Mais chaque milieu dans lequel vous vous introduisez est extrêmement juste. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un travail d'enquête énorme en amont? Parce que tout ce qu'on voit au début, après on parlera de l'Inde, mais tout ce qu'on voit de l'arrivée, etc., ça paraît extrêmement vrai. Et vous savez quoi? Les journalistes sont souvent très clichés au cinéma, représentés de façon très clichée. Et pas cette fois. Donc vous avez un gros travail de préparation.
Oui, en fait, mais je me documente en deux temps. C'est-à-dire que je me documente une première fois, mais en essayant quand même de pas être trop alourdi, par les informations qui pourraient aussi avoir un effet très inhibant sur l'imaginaire. Donc je me documente juste assez pour pouvoir écrire sans être complètement inhibée. Et dans un second temps, une fois que j'ai écrit, par contre, je reste très ouverte à ce que je vais entendre, aux rencontres que je vais faire, et j'affine au fur et à mesure. Et c'est ce qui s'est passé sur ce film. Et effectivement, je me suis documentée, mais tout au long de la préparation du film jusqu'au tournage inclus.
Moi, j'étais très impressionnée, pardon pour cette parenthèse, par l'exemple de Florence Aubenas, qui n'a jamais profité de cette séquestration de 5 mois pour écrire un livre ou faire un documentaire, et qui s'est aussitôt replongé dans la vraie vie et dans les documentaires et les reportages.
Moi aussi, bien sûr, ça fait partie de ce qui me fascine, c'est-à-dire cette force obscure qui fait que des gens qui ont été en captivité pendant des mois et qu'on pourrait penser brisés repartent presque aussitôt un mois après. Enfin, je crois que ça a été le cas aussi de Didier François et de beaucoup d'autres. Oui. Et c'est cette force-là qui m'a. C'est plus d'ailleurs que le traumatisme. Mon film n'est pas une étude sur le trauma. Les syndromes post-traumatiques au sens psychiatrique, bien plus un film sur la vocation.
Et pourtant, il y a un passage obligé de Gabriel, c'est le nom de votre héros, chez le psy, et qui raconte déjà beaucoup du personnage. On écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Je me présente. Hervé Perra, psychologue spécialisé dans la prise en charge des anciens otages. Enchanté. Il arrive que les otages, à leur libération, ressentent une euphorie qui peut avoir un contre-coup violent lorsqu'elle se dissipe dans les semaines qui suivent. Ça n'a pas l'air d'être votre cas.
Je crois pas être euphorique.
Peut-on dire que votre captivité a été une épreuve traumatisante? Vous pouvez m'en parler?
Quand on a été pris, je m'en passe la scène en boucle. Puis les simulacres d'exécution, les coups, les sévices, les cris des prisonniers qu'on torturait, les fausses bonnes nouvelles, les déplacements forcés d'un lieu à l'autre dans une insécurité totale à cause des bombes.
Et en dehors de ces moments qui ont pu être terrifiants, qu'est-ce qui vous a été le plus difficile au quotidien?
Le sentiment de culpabilité. Puis l'ennui, le manque de lumière, mais le pire, c'est vraiment la culpabilité.
Vous envisagez un soutien psychologique?
Je l'envisagerais si nécessaire, mais je préférerais pas. Je m'épanouis dans l'action, pas dans la parole.
Votre métier a pourtant à voir avec la parole.
Oui, mais une parole en prise avec des événements concrets, la réalité tangible. L'idée de rester des heures dans un canapé à parler de moi, ça c'est mes mauvais souvenirs.
Trouver les mots pour exprimer une expérience inouïe, mettre en relation des événements de votre vie qui peuvent paraître éloignés, c'est utile parfois, vous ne pensez pas?
Analyser, disséquer, on l'a beaucoup fait avec Frédéric pendant 4 mois. Et là, j'ai envie d'autre chose. Et pour être franc, je pense que ceux qui ont le plus besoin d'une psychanalyse, ce sont nos ravisseurs.
Peut-être, oui. Mais en ce qui vous concerne, il y a l'avant et l'après. Vous sortez changé de cette expérience. Vous comptez à nouveau exercer votre métier?
La question se posera. Mais pas aujourd'hui.
Ça, Me Hands and Love, c'est une scène qui paraît très véridique, quoi. Vous avez eu des échos de ça, de ce que les questions que posaient les psys aux ex-otages?
Alors en fait, je me suis donné comme contrainte, quand je l'ai écrite, cette scène, de ne pas consulter avant reporter, psychiatre, pour me confronter moi-même, enfin pour me confronter avec ma propre idée, enfin
de du personnage,
du personnage, parce que c'est quand même le plus important. C'était avant tout la singularité de mon personnage qui ne le ramenait pas à des stéréotypes. Donc pour m'obliger à aller plus au fond de moi-même, disons, j'ai écrit comme ça sans consulter personne. Et après, dans un second temps, je l'ai fait relire par deux reporters et par un psychiatre spécialiste de ce genre de cas. Et ces lectures ont bien sûr été très 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 précieuses.
Mais vous le disiez, le thème de Maya, ce n'est pas le reporter de guerre et le syndrome post-traumatique, mais plutôt une quête intérieure, la renaissance d'un homme après une épreuve.
Oui, et puis c'est la façon dont un homme va retrouver le présent. Oui, c'est une renaissance, oui, c'est une on peut dire que c'est une reconstruction, mais c'est aussi une quête qui est sans fin, je dirais, et le film ne résout pas entièrement les questions qu'il pose, et ça aussi je crois que c'est propre à mon cinéma. Enfin, il y a quelque chose qui reste ouvert, mais c'est un homme qui cherche à se retrouver, et ça se passe par le biais du passage du temps aussi, c'est-à-dire que c'est retrouver le présent, mais c'est aussi laisser le temps passer.
Le film s'appelle Maya, et Maya, c'est aussi le titre d'un morceau de musique.
Dust of the rivers does murmur and weep, hard and sharp laughter that cuts to the bone. Ah, but every face within your face does shine.
Un morceau signé The Incredible String Band. Vous l'avez beaucoup écouté, cette musique.
Oui, j'ai jamais parlé de ce morceau, à vrai dire, avant, je crois, hier. Pour la première fois, il m'est revenu alors qu'il était vraiment au cœur du titre. Je crois que le film s'appellerait pas Maya sans ce morceau. C'est ce groupe hippie que j'ai beaucoup écouté, notamment quand j'étais à Goa, et qui m'exaltait et continue de m'exalter. Ouais.
Alors Maya, c'est le prénom de la jeune fille que Gabriel va rencontrer à Goa. Pourquoi l'Inde, d'ailleurs? Pourquoi l'emmener en Inde? Vous auriez pu l'emmener ailleurs.
Mais justement, je crois que j'aurais pas pu l'emmener ailleurs parce que l'Inde est un pays qui m'aimante depuis des années. Je prétends pas le connaître bien. Je crois le connaître un petit peu mieux maintenant que j'y ai tourné, que j'y ai passé des mois. Mais malgré tout, j'étais attirée par ce pays depuis longtemps. Et je crois que faire ce film, pour moi, c'était me donner la chance de m'en rapprocher, de le comprendre un peu mieux, de m'y confronter d'une façon qui me permettrait de voir des choses que je ne pouvais pas voir en y allant comme simple touriste. Donc ça avait un sens pour moi d'aller vers ce pays qui à la fois était l'inconnu et en même temps avec lequel j'avais une certaine familiarité. D'ailleurs, j'ai tourné beaucoup de scènes dans des lieux que je connaissais, sur lesquels je suis retournée. J'ai un rapport très fort avec les décors sur mes films. Et s'il y a des lieux que j'aime tourner en ne les connaissant pas, c'est aussi important pour moi de filmer des lieux qui ont un passé, qui ont une histoire pour moi.
Alors là encore, bravo pour cet incroyable travail aussi de préparation sur l'Inde, parce que moi j'y suis allée, je l'ai retrouvé, il n'y a aucun cliché par rapport à ce pays. C'est compliqué hein, d'éviter les clichés et les images fortes de l'Inde.
J'espère qu'il n'y a aucun cliché, non. Merci. Oui, c'est compliqué dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire c'est tentant, ce serait tentant de partir dans un extrême ou dans l'autre, c'est-à-dire il y a une telle on associe tellement l'Inde à la pauvreté, à la misère. On se sent très vite coupable si on ne fait pas un film qui parle de ça quand on est en Inde. Et en même temps, on peut y voir une autre forme de cliché. L'Inde n'est pas que ça. L'Inde ne se réduit pas à ça. Et donc, j'ai tenté de filmer l'Inde telle que je la voyais, c'est-à-dire sans l'idéaliser, mais sans non plus la caricaturer, en trouvant une distance qui était fidèle à la mienne quand j'y suis.
C'est drôle parce que quand on voit un film sur l'Inde, on s'attend toujours à un miracle, à quelque chose qui peut arriver d'incroyable au personnage. Et non! Ce qui lui arrive d'incroyable, c'est ce qui se passe dans sa tête à lui.
Oui, il y a une transformation qui se fait, mais je crois que c'est une transformation intérieure, une transformation silencieuse d'ailleurs, comme dans tous les films. Et si la spiritualité est extrêmement présente en Inde, j'espère qu'elle l'est aussi dans mon film, mais pas forcément d'une façon aussi spectaculaire que ce à quoi on pourrait s'attendre.
On va passer l'extrait de la première rencontre entre Gabriel et Maya.
Are you waiting for someone?
Yes. But I'm early. Are you the only guest in this hotel?
I'm not a guest. I live here.
Oh, so you know Mamti.
Are you waiting for him?
I am.
He's always late. I'll text him.
Seems you know him well.
He's my dad.
Oh, you're Mamti's daughter. I'm his godson.
You're his godson?
Yeah.
Nice to meet you. I'm Maya.
Gabriel.
You're French, right?
Yeah.
I know two words in French. Des glaces and oh la la.
It's a good start.
Cette actrice n'est pas actrice.
Elle le deviendra peut-être, elle l'est peut-être déjà, mais en tout cas elle ne l'était pas quand je l'ai rencontrée pour ce film. Ouais, je l'ai trouvée assez merveilleuse tout au long du tournage.
Et Roman Kolinka, on dit Kolinka ou Kolinka?
Kolinka.
Lui, qui est acteur, vous dites que c'est votre Antoine Donnel à vous.
Non, si je dis ça, c'est évidemment très abusif. Non, je le retire dans le sens où je ne me mesure évidemment pas à François Truffaut. C'est une façon de parler.
Non, mais c'est de parler de notre relation avec lui.
Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai rencontré Roman Kolinka en faisant Eden, j'ai eu le sentiment de trouver à travers lui une note qui était exactement celle que je cherchais dans mes films à travers des personnages masculins. Et c'est un acteur qui m'a bouleversé, c'est vrai, depuis le début par la simplicité de son jeu, une certaine intériorité qui n'est jamais affectée, cette absence d'affectation, cette vérité et une mélancolie qu'il a, qui trimballe, mais qui n'est jamais appuyée. Voilà, il y a quelque chose de presque bressonien dans son jeu qui me touche et qui correspond à ce que j'ai toujours cherché chez les comédiens. Et en même temps, c'est vraiment un acteur. Il a vraiment ce charisme, cette aisance, cette grâce. Voilà, je trouve que c'est un grand acteur et je pense que je continuerai de le filmer s'il accepte de continuer à jouer dans mes films.
Frédéric Strauss, vous n'aimez pas que Bergman dans la vie. Vous avez vu le film de Mjansen Love, alors?
Oui, c'est un très beau film. Et c'est un film touchant parce que le personnage principal, donc, est un homme, cet homme qui revient de l'enfer quand même. Il a été prisonnier, enfin, fait otage. Et la seule chose qu'il dit, c'est j'y retournerai. Et on se dit, finalement, il va se passer quelque chose d'autre. Il va dire quelque chose d'autre. Et en fait, il est attaché à cette passion, enfin, à son métier de journaliste. Et le film ne parle pas à sa place. Enfin, le scénario ne construit pas des choses habituellement dramatiques, etc. Donc, il y a une espèce de... On se dit quelle va être la promesse du film, qu'est-ce qui va se dire d'autre, et en fait non, on est tendu dans cette, on est dans l'attente de quelque chose, et c'est la passion qui est là tout le temps, mais sans rien d'autre, dans une sorte de dépouillement très 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 beau. Enfin, les plans sont magnifiques, les plans sur l'Inde, mais les plans sur les personnages, le premier plan, tout ça, chaque plan tombe juste, enfin c'est très très beau.
Il a une passion pour son métier, c'est sa seule attache, parce qu'il refuse toute autre forme d'attache.
Il refuse les attaches et en même temps, et c'est ce que raconte le film aussi, cette jeune fille va le faire quelque peu vaciller et il va y avoir chez lui un moment, un tiraillement entre sa vocation, entre cette passion et puis la possibilité d'une autre vie, la possibilité d'un amour qui restera quand même une forme d'amour impossible.
Vous avez une belle formule parce que vous dites que Isabelle Huppert, votre personnage précédent, renonçait à l'amour et que Gabriel, lui, va vers l'amour, comme on dit chez Truffaut.
Oui, il va vers la sensualité, vers un amour physique, là où le personnage joué par Isabelle Huppert renonçait refusait, en tout cas cherchait, trouvait la réconciliation dans un amour, disons, plus cérébral.
On va réécouter une autre scène entre les deux, donc entre Roman Kolinka et Archie Banerjee.
Have you lived here?
We lived in Mumbai, but we came for the holidays. Then my mother, who didn't work but smoked a lot of weed, decided to move to Goa, and she brought me with her. I love this house. The garden. When I was 7, my mother fell in love with a man and dumped my father. And me.
And then?
I left India with him. He's a diplomat. We traveled, lived in different places. Maybe you should go home before your dad starts worrying.
Are we doing anything bad?
Of course not. But night is falling and I think you should go.
I'm sorry if I embarrassed you.
That's not what I meant. Maya.
Maya de Mia Hansen Love. On raconte toujours que c'est très compliqué de tourner en Inde.
C'est pas simple, hein. Je vais pas mentir.
C'est-à-dire alors?
D'abord, on pourrait penser à tort que c'est pas cher. Donc ça pourrait être une chose qui simplifie la vie, mais c'est absolument pas le cas. En tout cas, à Goa, c'était plutôt très cher d'y tourner parce que nous devions y tourner à la saison touristique qui est assez large, parce qu'avant c'était la mousson, après il fait trop chaud, enfin donc on n'avait pas vraiment le choix, et du coup les prix sont tout... enfin je veux dire il faut faire... ouais, non mais, ouais, c'est, mais c'est vrai, il faut faire venir tout le monde, il faut faire venir, même si on avait une équipe en grande partie indienne, cette équipe indienne elle venait de Bombay, il fallait la faire venir à Goa, la loger à un moment où les prix grimpent, et donc il y a ça, et puis il faut des autorisations pour tout. Enfin, l'Inde est un pays extrêmement bureaucratique, et on pourrait croire qu'on peut juste sortir sa caméra et filmer comme ça au coin de la rue, mais c'est absolument pas ça. D'ailleurs, j'étais assez stupéfaite de voir la vitesse à laquelle les policiers rappliquaient, notamment dans les grandes villes. Si vous n'avez pas une autorisation, enfin, au bout de 2 minutes, vous êtes dénoncé, quoi. Donc
c'est très administratif, en
très,
fait.
Très, très, très.
Ça vient du système colonialiste.
Voilà.
Anglais, ouais.
Mais au-delà de ce qu'on peut imaginer, donc non, c'est pas simple. Et puis il peut y avoir une certaine tension dans la rue quand on arrive avec un matériel, avec une équipe et qu'on s'installe là, même avec des autorisations. Je veux dire, il faut pouvoir être un peu habile dans la façon de s'inscrire dans la vie indienne, mais en même temps c'est ça évidemment qui me plaisait, qui m'excitait beaucoup.
Je le disais en ouvrant cette heure, votre prochain film Maya Hansen Love a été tourné à Faro en Suède, l'île sur laquelle Ingmar Bergman a vécu. Bergman, c'est énorme comme référence. Il représente quoi dans votre vie de cinéaste, Bergman?
C'est tellement de choses maintenant que j'aurais du mal à les exprimer en quelques mots. Mais ce qui est assez miraculeux pour moi, et c'est d'ailleurs en partie la raison pour laquelle j'ai voulu faire le film que j'ai tourné là-bas, c'est que ça n'a jamais pesé. Alors que Bergman, c'est vraiment la référence des références. Enfin, c'est le cinéaste absolu, tant de films... une œuvre, impossible à saisir, et partir là-bas, dans cette île qui était vraiment comme son île, où il y a très peu d'habitants en plus, donc sa présence est partout, ça pourrait être une chose très très pesante, inhibante, et en fait, moi, ça a eu un effet totalement inverse sur moi, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps là-bas à écrire, notamment dans les maisons qui étaient ces maisons qui sont devenues depuis des résidences d'artistes, et au contraire, j'ai éprouvé une légèreté, un sentiment de liberté dans l'écriture que j'avais littéralement jamais éprouvé avant. Donc, la présence de Bergman a toujours eu sur moi un effet plutôt très stimulant et bienfaiteur. Voilà.
Bergman qui fait l'objet, à l'occasion du centenaire de sa naissance, d'un beau coffret édité par Studio Canal intitulé « Les passions de Bergman ». Il y a 8 films à l'intérieur, « Les communions »,« La prison »,« Cris et chuchotement »,« Vers la joie »,« Le silence »,« À travers le miroir », »,« Le visage » et « De la vie des marionnettes ». Mais aussi un livret très précieux, disais-je, dans lequel vous décryptez, Frédéric Strauss, film par film, un parcours gigantesque. Et qui démarre sur une anecdote qui raconte tout Bergman, le récit de sa naissance. Racontez-nous.
Alors, le récit de sa naissance officiel,
comme il le raconte
dans l'Aeterna Magica, c'est un enfant qui naît avec c'est sa mère qui a la grippe espagnole. Enfin, il est dans une situation de détresse absolue dès sa naissance. Et puis Jan Holmberg, qui est le directeur de la Fondation Bergman, dit c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y avait pas de grippe espagnole pour la mère de Bergman, pas de danger pour l'enfant. Donc c'est entièrement imaginez.
Et quand je dis que ça raconte tout Bergman, c'est la différence entre la vérité et la réalité.
Voilà, c'est ça. C'est un cinéaste qui s'autorise le mensonge pour aller vers la vérité, en fait. Hein. Donc là, il dit...
Il dit la réalité est banale.
Voilà, la réalité, c'est Jan Holmberg qui dit c'est votre brosse à dents dans votre verre à la maison. Et puis, la vérité, c'est quelque chose à quoi il faut donner forme. Donc Bergman, en imaginant cette naissance dramatique, dit quelque chose sur sa détresse d'homme, puisque c'est un homme qui vit dans la détresse, quand même, enfin, qui vit en tous les cas avec des angoisses, avec des passions vraiment tout le temps, mais qui en souffre. Enfin, qui ça le rend génial, ça le rend créatif, et puis ça le fait souffrir. Donc, il se place dans ce récit qu'il fait dans son livre sous le signe, voilà, d'une douleur, d'une intensité finalement qui va être sa vie.
Pardon de commencer par là et cette question un peu naïve, mais quelqu'un qui n'a jamais vu un film de Bergman, vous recommandez quel film en premier?
Il y a tellement, il y a plusieurs entrées.
Une entrée pas trop difficile, vous voyez, une entrée.
Moi, je dirais, bon, là, on va parler de trois films, mais Les Communiants, par exemple, c'est un film.
Vous commencez fort là. Hein.
Bah, en même temps, je trouve que c'est un film très dépouillé.
Alors
très...
on y va, on va commencer par Les Communiants. Racontez-nous le propos des Communiants.
Les Communiants, c'est l'histoire d'un prêtre, d'un pasteur donc suédois, qui brutalement accepte que finalement Dieu l'abandonne. Et que, enfin, l'a abandonné, c'est son idée, et accepte de le rejeter, et se défait de Dieu violemment, et se défait d'une femme de sa paroisse qui l'aime, et lui a perdu la sienne, mais donc il y a cette femme qui veut lui donner tout l'amour au monde, et il la rejette de manière très très brutale, comme il a rejeté Dieu.
Justement, là, on va passer cette scène, mais absolument affreuse dans les propos, je veux dire la dureté. On va la passer en suédois et pardon, je vais la un petit peu la doubler. Allons-y.
Det trött på din omsorg. Det pjolder. Dina goda råd.
J'en ai assez de vos soins. De vos conseils, de vos petites bougies sur la table. Je ne supporte pas votre myopie, vos mains maladroites, votre timidité, vos caresses.
Dina ängsliga ömhetsbetygelser.
Vous me forcez à m'occuper de tous vos malaises. De votre estomac délicat, de votre eczéma, de vos engelures, je veux sortir de ce lot d'ennuis ridicules. Je n'en peux plus, j'en ai assez de vous. C'est dur, hein?
Oui, oui, c'est. Je retrouvais des notes que j'avais prises en écrivant ce livret, et j'ai écrit deux fois ce dialogue-là dans mon carnet de notes, tellement je trouvais que c'était frappant. Enfin, il y a une telle violence dans les mots, on a envie de les écrire. Enfin.
Alors, à l'époque, vous dites que donc Bergman a 45 ans, il est très, très populaire, mais le public ne sera pas au rendez-vous. Et vous dites que c'est un film essentiel, un des piliers de l'œuvre de Bergman.
Il le fait exprès, hein, il le fait contre ses précédents films presque. Oui. Oui, une rupture avérée et voulue.
Là, il va vers vraiment le dépouillement. Donc, il veut... c'est une épreuve de vérité, en fait. Hein, donc, pour le pasteur, mais pour Bergman aussi. Donc, il va... par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à tourner dans une véritable église qu'il a mis du temps à trouver. Et puis, finalement, avec Sven Nykvist, son chef opérateur fameux, il trouve que les images sont trop belles. Donc, ils refont le film en studio pour maîtriser la beauté du film, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop beau. C'est vraiment un film âpre sur l'affrontement avec finalement l'abandon, le sort de l'être humain abandonné, enfin aussi bien abandonné par l'amour, puisque cette femme à qui ces mots sont adressés, bon ben elle en prend vraiment pour son, c'est très difficile pour elle, hein. Ouais. Et puis lui il souffre aussi d'être
qui abandonne Dieu, voilà. Ou qui est abandonné par Dieu,
oui. Voilà. Il y a que de la souffrance et en même temps une libération, bon voilà.
Et un élément autobiographique, son père était pasteur.
Voilà, son père était pasteur. Et c'est le père qui a donné à Bergman l'épilogue du film, parce que Bergman avait emmené son père, quand il faisait son casting d'église, il emmène un jour son père à une messe, et puis le pasteur arrive en disant, excusez-moi, je suis grippé, je vais pas faire la messe, on fera juste la communion, quelque chose. Enfin, et donc, pendant qu'il va se préparer, le père de Bergman va retrouver ce pasteur et lui dit, c'est pas possible que vous fassiez ça, quel que soit les circonstances, vous devez faire votre service,
votre
voilà,
fils,
entièrement. Ouais. Donc, et c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, toujours tu célébreras ton culte. Et ce qui est marrant, c'est que cette morale de l'histoire, Olivier Assayas la mentionne dans son film qui va sortir au mois de janvier, hein, Double Vie. Donc, il fait un commentaire là-dessus sur la passion. Qu'est-ce que c'est ?
Ouais.
Enfin, c'est les films de Bergman, c'est pour dire aussi que ces films ont une fonction utile quasiment dans la vie, c'est-à-dire que on peut en tirer quelque chose d'une épreuve, on peut y trouver une sorte de guide aussi.
La même année, en 63, sort Le Silence. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter la bande-annonce en anglais. Elle est assez intéressante.
The Silence. Ingmar Bergman, one of the world's most acclaimed directors of motion pictures, brings to audiences this his most stunning film, The Silence. This compelling drama is an intimate, fascinating look into a world where people seek to communicate through the ruthless gratification of their sexual appetites. starring in a brilliant portrayal of the delicate and complexing intimacies of lesbian love, Ingrid Tulin, and as her sister, a beautiful, arrogant creature of the flesh, living only for lust and licentious pleasure, Gunnell Lindblom, two women traveling through a strange land, a strange existence where they find loneliness and a desperate passion. The silence.
J'ai entendu lesbienne. D'ailleurs, le silence, même année que donc les communiants, il a été accusé pour ce film d'outrage moral, de pornographie, de dépravation morbide.
Oui, lui, il a trouvé que c'était ridicule à l'époque, mais c'est vrai que le film, quand on, enfin moi, je l'ai découvert pour ce livret et donc tardivement. Et mais c'est vraiment un film extrêmement érotique, hein, d'une non pas parce qu'il dévoile spécialement le corps, mais il y a une scène, par exemple, où on voit Gunnell Lindblom, donc l'actrice principale, qui se rend dans un café, qui drague un serveur, le serveur la drague. Enfin, c'est vraiment un ballet comme ça de érotique entre eux. Ensuite, elle va dans un théâtre où il y a un couple qui fait l'amour parmi le public. Elle repart dans la rue, elle est au milieu d'hommes dans la rue, dans une robe extrêmement proche de son corps.
Enfin,
tout est extrêmement érotique. Ouais, et ouais. C'est vrai qu'on sait que Bergman a vécu des histoires d'amour passionné.
Oui.
Et il dit dans ce livre, La Terna Magica, donc où il raconte sa propre histoire, que la sexualité lui est tombée dessus comme une sorte de déflagration, finalement.
Ah, oui.
Il c'est devenu une sorte de force. Chez lui, quoi, en fait.
Et dans votre livret, il dit « Je ne veux pas faire des films simplement intellectuels, je veux que le public puisse ressentir mes films, c'est plus important que de les comprendre. » C'est fort de venant de Bergman, ça. Hein.
Oui, oui, c'est un cinéaste absolument du concret aussi, c'est-à-dire de la réalité, de la chair, voilà, des corps, et la souffrance aussi, voilà, donc le plaisir. Donc là, dans le film, c'est deux femmes, une qui est en train d'agoniser, et l'autre qui est sa sœur, ou qui est peut-être une amante, qui va essayer de retrouver pendant ce temps-là la vie en vivant une aventure amoureuse et sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, il est joué par deux comédiennes, Gunnell Lindblom et Ingrid Tulin. Et Gunnell Lindblom a mis un point d'honneur à dire qu'elle n'a jamais vécu d'aventure avec Bergman.
Oui,
elle détestait cette idée des actrices de Bergman qui ont eu des vies, enfin des passions très belles d'ailleurs. Mais elle ne pouvait pas supporter cette idée d'être une actrice et puis qui serait la proie du metteur en scène, entre guillemets. Et puis Ingrid Tulin, elle était chaperonnée par son mari qui était Harry Schein, c'est un homme éminent du cinéma suédois, et qui avait tellement peur qu'elle soit raptée par Bergman, qu'il arrêtait pas de dire des choses terribles sur Bergman en lui disant cet homme est ridicule, etc. Donc apparemment c'est le film le plus érotique, mais le film où les actrices n'ont jamais été dans une situation amoureuse avec Bergman.
On sourit un peu devant en écoutant cette bande-annonce en anglais, et pourtant, le film dont on va parler maintenant, Cri ou chuchotement, a eu un énorme succès en Amérique.
Oui, oui, oui.
Il a même été nominé cinq fois aux Oscars.
Voilà.
Ouais.
Et ce qui est formidable avec Cri et chuchotement, qui est devenu comme ça un énorme classique, c'est que c'est un film que Bergman entreprend à un moment donné dans sa carrière où les films n'ont pas eu le retentissement peut-être qu'il voulait. Et donc, il décide d'abandonner son système de production habituel. Il finance le film lui-même. Il demande à ses acteurs d'être en participation. Et il arrête ce qu'il faisait. Donc, il recommence à zéro. Il crée un film pour casser ses habitudes à lui-même de cinéaste, parce qu'il sait, il avait déjà fait ça au moment de Persona, mais il sait qu'à un moment donné, il est capable d'arracher au cinéma quelque chose de fort, mais qu'il faut qu'il casse toutes ses habitudes. Et donc, il a fait crier chuchotement.
Il le produit lui-même.
Voilà, il le produit lui-même. Ouais. Et puis, en libérant totalement sa créativité, là, par exemple, il avait cette vision de femme dans un décor, habillée en blanc dans un décor rouge. Mmh. Il le met à l'écran. On sait pas exactement ce que c'est, parce qu'on peut pas dire, chez les Suédois, on vit dans des corps rouges habillés en blanc, donc c'est un fantasme en fait pur, mais avec ce fantasme, et donc cet univers de femme, là aussi c'est une femme qui est en train de souffrir autour de ses sœurs, il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a de la souffrance, il y a aussi de la tendresse et de la sensualité, et dans ce monde féminin, voilà, il crée quelque chose de nouveau qui va faire un effet. Alors quand le film il sort exactement donc aux États-Unis d'abord, et il fait un retentissement dingue.
On écoute un petit extrait, très 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 dur. Et racontez que Bergman, vous le dites dans votre livret, vous l'écrivez, la femme jusqu'à présent était montrée de manière ridicule au cinéma, et ça m'a donné envie de les montrer, ces femmes, telles qu'elles sont vraiment.
Oui, parce que donc, vous disiez, c'est le centenaire de Bergman, donc quand il commence, c'est les années 40, en réalité, et donc il va représenter la modernité dans un moment où elle n'est pas vraiment là dans le cinéma. Donc les femmes, il va les écouter, il va vivre avec elles dans sa propre vie des choses extrêmement intenses, et son cinéma va être une sorte d'exercice pour raconter les femmes, en fait, hein, pour les montrer, les dévoiler, à rentrer dans leur intimité, de leurs sentiments, de leur complexité amoureuse aussi, hein. Enfin, il y a tout. C'est vraiment l'objet, je dirais, de son cinéma, c'est d'arriver à créer des personnages de femmes qui sont le contraire de femmes toutes faites. Enfin, voilà.
Tout cela est dans ce magnifique coffret des Studios Canal, et je le répète, ce précieux document que vous avez composé.
Vous regardez les films et lire le livret.
Et merci à tous les deux. Vous restez avec nous, bien sûr. Maya sort mercredi prochain.
Superbe.
On se retrouve après ça pour les sorties.
Under the bad, bad moon tonight. Oh, baby, is it just me? Or is there something in the air we breathe? 'Cause I'm feeling dizzy, dizzy, yeah. Oh, was the body, was it treating you right? Was it I could be there, but I'm under the bad, bad moon tonight. Baby, can you help me? Let me out, I'm trapped in a blur. Started out the way I wanted, but it's weird now. Let me out, I'm lost in words. Too much in my head, I should have seen the bad signs. I wanna tell you everything will be fine, but I'm afraid that it's a waste of your time. Let me out, I'm lost in words. Don't know how I ended here, trapped in a bed.
Les sorties de la semaine, on va commencer bien sûr par la Palme d'Or de Cannes cette année, une affaire de famille du cinéaste japonais Kore Eda. Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la maltraitent. Cette famille pauvre va représenter un îlot de tendresse pour la petite fille, mais une famille déglinguée. Le père vole à l'étalage avec son fils qui ne va pas à l'école, la fille travaille dans un pipe-show, la grand-mère arnaque, une famille liée par les délits, voilà ce qui intéressait Kore-eda. Une famille dans un décor unique, une baraque, Capharnaüm, entre vêtements entassés, vieux journaux où la vie déborde. Dans quelques mètres carrés, c'est un tour de force de faire du cinéma là-dedans, en parvenant à nous raconter chaque personnage avec tant d'attention et d'affection, Laurent.
Oui, c'est une palme d'or méritée, c'est pas toujours le cas. On retrouve ici le grand Kore-eda, celui de Nobody Knows, par exemple, parce que parfois avec notre petite sœur, par exemple, c'était quand même beaucoup moins intéressant. Famille et enfance, c'est le thème favori quasiment du cinéma asiatique. Alors ici, ça donnerait presque l'improbable rencontre entre Ken Loach et Ozu, hein, ça c'est un peu ça, avec un politiquement incorrect sur lequel il faut insister. Le film est détesté au Japon.
Parce qu'il
présente, méprisé, enfin, oui, vraiment, parce qu'il présente une famille absolument recomposée. Non pas, ce ne sont pas les liens du sang, c'est les liens du choix. C'est-à-dire, je te choisis comme faisant partie de ma famille et tu me choisis, etc. Donc ça, c'est absolument inaudible pour cette société japonaise, société montrée aussi comme ultra violente, hein, socialement. Là aussi, ça passe très très mal. Et puis, il y a un scoop, eh bien, ça y est, Kore-eda a découvert les corps et la sensualité et la sexualité. C'est la première fois dans son cinéma, et au fond, ça fait du bien, parce que d'où vient la famille? Certainement de la sexualité et de la sensualité.
Celle qui joue la grand-mère Kirin, qui malheureusement est disparue, est partie en septembre, c'était une star au Japon.
Formidable actrice.
En revoyant le film hier, j'ai noté cette phrase, c'est bien de choisir sa famille soi-même, ça évite d'avoir de faux espoirs. J'adore cette phrase. On va passer à des films pour les enfants. Pachamama de l'Argentin Juan Antin, mais produit en France. L'animation Tepulpa et Naira, deux petits indiens de la cordillère des Andes, partent à la poursuite de Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu'à Cusco, capitale royale assiégée par les conquistadors. J'aime bien la note d'attention du réalisateur qui dit, plutôt que de relater la colonisation de manière historique, j'ai voulu la raconter du point de vue des indigènes à hauteur d'enfants. J'avais envie de leur raconter que les conquistadors n'étaient pas des héros, mais des voleurs.
C'est merveilleux, vraiment, tout simplement. C'est un petit bijou. Il faut, la période des fêtes approche, les vacances aussi. Il faut conseiller vraiment aux parents d'emmener leurs enfants voir Pachamama. C'est une animation en 3D pour les personnages.
À partir de 6 ans.
En 2D, oui, tout à fait. En 2D pour les décors. On songe inévitablement à Paul Grimaud et à Michel Oslo. C'est pas un parrainage étouffant. C'est un vrai beau parrainage. C'est beau, c'est intelligent. Les couleurs sont superbes, ça raconte effectivement des choses tout à fait passionnantes, et ça s'adresse intelligemment aux enfants. C'est pas tous les jours fête, il faut y aller.
Et ça parle du respect de la nature.
Par exemple.
Très important. Autre film pour les enfants d'un autre genre français, celui-là complètement Rémi sans famille, d'Antoine Blossier, les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au signor Vitalis et Daniel Auteuil, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain, accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli Cœur, pour son long voyage à travers la France. C'est adapté, bien sûr, du roman Sans famille, lequel a déjà été adapté au cinéma.
Oui, alors, adaptation conte cinéma, on est loin quand même du Comencini quand il a adapté Pinocchio. Tout ici est très très bien léché, un très beau téléfilm de prestige Noël façon France 2, avec casting impeccable de Le Doyen à Sagné, en passant par Daniel Auteuil.
Et le petit Malum Paquin.
Oui, qui est un singe aussi, qui arrive à faire passer beaucoup de choses. Mais alors, Daniel Auteuil, il ressemble à cet acteur immense qu'on avait vu chez Sauté, chez Téchiné, qui a disparu de nos écrans, mais qui de temps en temps nous donne de ses nouvelles avec ce double assez maladroit qui nous hante dans ses films commerciaux, sans âme et sans projet.
Ça s'appelle Rémi sans famille.
Aussi.
Ensuite, Nous les Coyotes, premier film d'un couple, Anna Ladoul et Marco La Via. Ça raconte l'histoire d'un jeune couple de l'Illinois qui veut commencer une nouvelle vie et part à Los Angeles. Rien ne se passe comme prévu pour le jeune couple. Leur première journée dans la Cité des Anges va les emmener de déconvenues en surprise d'un bout à l'autre de la ville, inspiré de leur vie quand ils ont emménagé à Los Angeles, trouver un appart, un job, le tout sur 24 heures.
Oui, c'est vraiment autobiographique, c'est revendiqué comme tel. Donc les deux jeunes protagonistes du film ont quasiment l'âge des deux jeunes réalisateurs. Donc il y a un effet de miroir tout à fait intéressant. C'est il se fracasse allègrement contre le rêve américain, et quand on le fait à Los Angeles et qu'on a envie de cinéma, on voit ce que ça peut donner. Bah ici, ça donne tant mieux, un film sans trop d'argent, un film indépendant, une production indépendante tout à fait sympathique, avec certes un peu des temps morts, un peu des choses qui ne sont pas assez creusées, mais en tous les cas pour une première œuvre à ce point autobiographique que ça retient toute notre attention.
Nous les Coyotes, un très grand film sort, mais pas en salle. Roma, du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón. Lion d'or à Venise, disponible, comme on dit, sur Netflix depuis hier. Tout le monde n'a pas Netflix, et même ceux qui l'ont verront sur un petit écran cette fresque intime, chronique en noir et blanc dans la vie d'une famille à Mexico au début des années 70, celle de Cuarón, à n'en pas douter, une ode à toutes les femmes qui l'ont élevée, la domestique indienne, Cléo, et à travers elle, les inégalités de la société mexicaine. C'est intime, c'est politique, c'est familial, réuni dans les tableaux, dans un noir et blanc absolument sublime, et un travail sonore assez remarquable pour ceux, les Vénards, qui l'ont vu comme nous sur grand écran. C'est du Dolby Atmos qui ne pourra pas être restitué par une vision domestique.
Hélas, absolument, il n'y aurait pas ce film.
On va, on va finir vite par Utøya, 22 juillet. C'est bien sûr l'histoire de ce massacre qui a eu lieu en Norvège en 2011, Laurent.
C'est un film malin et malsain. Malin parce qu'il affiche une audace formelle avec un plan séquence censément durer 78 minutes. J'ai quelques réserves sur la technicité de la chose. Malsain parce qu'à force de nous donner ce massacre que tout le monde encore en tête comme une sorte de film de slasher pour adolescents, c'est-à-dire avec des bruits de balles en permanence, un hors-champ qui est sublimé comme ça. C'est malsain, voire dégueulasse sur la fin, dont je ne dirai pas beaucoup plus. C'est malsain enfin parce qu'on ne peut pas parler d'un fait divers à ce point, la politique et sociale, en se dédouanant avec un petit carton à la fin résumant ce qu'il s'est passé.
On a très très peu de temps, juste je voudrais évoquer quand même ce festival Plus Bébelle la Vie à propos du livre qui était édité chez Marabout, au 3 Luxembourg à Paris, des films, des surprises, des quiz, des cadeaux au programme aujourd'hui, Le Cerveau, L'Homme de Rio, Un singe en hiver, et Le Magnifique. Allez-y, Laurent, deux cadeaux pour nos invités.
Un cadeau pour Janssen Love, dans la même collection chez Studio Canal que le Bergman de Frédéric Strauss, c'est tout Renoir, pas tout Renoir, mais beaucoup de Renoir, et du beau Renoir, du Nana, avec un documentaire notamment sur Renoir et les femmes, vous verrez, c'est un très beau coffret de chez Studio Canal. Et puis pour vous, Frédéric Strauss, vous les connaissez, ces trois films de Jean-François Stévenin, ça constitue son intégrale, c'est bien, Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka, mais ça fait l'objet d'un beau coffret au pacte avec le formidable merci. Livre de Yann Dedet sur le tournage d'un des films de Villeray.
Merci beaucoup, vous retrouverez toutes ces infos sur le site. Merci Janssen Love pour votre
merci
film Maya qui sort mercredi
merci
prochain. Merci Frédéric Strauss pour ce beau coffret sur Bergman.
Merci.
Chez Studio Canal, je vous fais signe pour le générique, on y va tout de suite.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Rebecca Denande s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Janssen Love, j'y étais.
Et moi, Frédéric Strauss, j'y étais.
Merci Nasser Moussaoui d'avoir été aux manettes aujourd'hui.